C'est maintenant le moment de profiter de la méga-vente prix employé fort chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien et Robertval. On a pour vous des rabais incroyables jusqu'à 16 000 en plus de prix vraiment bas parce qu'on liquide les modèles 2019 restants. Vous en voulez plus? On ajoute les rabais fidélité sur certains modèles et les rabais pour les nouveaux diplômés. Et comme on a besoin de véhicules d'occasion, on vous en donne toujours plus pour votre véhicule d'échange. Viens nous voir et toi aussi tu pourras te vanter d'avoir obtenu le même prix qu'un employé chez Ford. C'est un rendez-vous chez Jean-Dumas Ford.
On va parler avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal.
Salut Danny.
Pascal, avant de parler de la série des Raptors et des Celtics, deux décès au cours des derniers jours et des dernières heures dans le monde du basketball, pas juste dans la NBA mais dans la NCAA. D'abord, on va parler de Clifford Robinson qui est décédé samedi à l'âge de 53 ans. On dit que c'est un joueur étoile. C'est drôle, c'était dans les années de Kyle Drexler, mais je ne m'en rappelle pas de lui, moi.
Ben, il a joué sa rookie year à Portland. Cliff Robinson a joué longtemps pour une Trailblazer. Il a joué à UConn, dans les grosses années de UConn. Donc, il a comme mis UConn sur l'Université du Connecticut, excuse-moi, sur la map. Et puis, mais ça me touche particulièrement parce que j'ai 53 ans, Danny. Je suis né en 77, il est né en 76. Ça fait... on n'a pas les causes. Il y a deux ans, il y a eu un arrêt cardiaque.
De prohibé, donc on ne veut pas dire nécessairement que c'est ça, là, mais...
Ben, lui, il a toujours dit qu'il a fumé un petit peu de marijuana pendant les 18 années qu'il était dans la NBA. Ça l'a aidé à jouer, justement, ça l'a aidé à jouer 18 saisons. Mm. Il n'a jamais abusé, mais il a toujours pris un petit peu de... Ça serait plus le côté, au lieu d'être récréatif, peut-être plus médical. Mais à part ça, je sais qu'il y a eu un problème cardiaque il y a deux ans et demi, selon ce qui a été dit dans les médias. Ouais. Mais le reste, on n'est pas au courant, vraiment. Puis tu parlais de la NCAA, tu parlais de Lute Olson, entraîneur légendaire pour...
John Thompson.
Arizona. Ben, Lute Olson est décédé aussi dernièrement.
Lute Olson, oui, qui est en attendant. Ça, c'est-tu dans les années de Damon Stoudemire, non?
Exactement. Okay, si je ne me trompe pas, c'était le coach. Oui, c'est ça. Prends-moi pas à 100%, mais je pense que c'est lui qui a coaché Stoudemire contre Steve Nash, les grosses années d'Arizona. Donc, c'était Lute Olson qui était le head coach à Arizona. Donc, okay. Et puis, bien sûr,
aujourd'hui,
comme tu as mentionné,
John Thompson.
Ouais. John Thompson, 78 ans, Danny, tout un bonhomme de 7 pieds, a connu ses années de gloire avec l'Université de Georgetown. Il a quand même joué dans la NBA. Il a joué pour les Celtics, je me trompe pas, mais ça il est reconnu pour être l'entraîneur très disciplinaire.
Bon, dans ces années-là, c'était ça aussi. Oui,
c'est exactement. Patrick Ewing, écoute, il a passé 27 saisons avec Georgetown, avec une moyenne de 71% de victoires, puis il a gagné, je pense, le championnat national en 84.
Et Georgetown n'a jamais été capable, parce que Georgetown, des années 80-90, c'était fort, là.
Exactement.
Georgetown n'a jamais été capable de revenir.
De se reprendre là, après. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est le premier entraîneur noir à gagner un championnat national.
Okay.
Et il a aussi gagné deux championnats comme joueur avec les Celtics. Donc, il y a deux belles bagues de championnat NBA. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu comme un winner, comme on dit. Mais c'est vraiment ce qu'il a fait avec Iverson. Là. C'est le seul programme de haut niveau qui a recruté Iverson lorsqu'Iverson est en prison. Okay. C'est une longue situation, c'est une longue histoire par rapport à Iverson, là, mais c'est lui qui a donné confiance à Iverson. Il était reconnu pour coacher comme Ewing puis Alonzo Mourning, mais Iverson était sa star.
OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a déjà eu des possibilités? Je sais que c'est difficile, là, c'est pas du tout la même affaire, là, la NCAA puis la NCAA, tant au football qu'au baseball, qu'au basket. Là. Mais est-ce qu'il y a eu des chances, ou encore lui, c'était un entraîneur de la NCAA?
Tu parles de John Thompson?
Oui, John Thompson, de coacher dans
la NBA. Tu parles de coacher dans la NBA?
Oui, c'est ça.
Je pense pas que ça l'intéressait.
OK.
Tu regardes Patrick Ewing qui était assistant longtemps. Et il est en ce moment l'entraîneur-chef de Georgetown, Patrick Ewing.
Oui, c'est sûr. Ouais. Et Georgetown a encore de la misère, vraiment.
La NCAA puis la NBA, ça devient quelque chose qu'on s'habitue. C'est pas évident, un coach NBA dans la NCAA ou l'inverse.
Et c'est la même affaire dans la NFL, en plus.
C'est pas la même, ouais.
Ouais. Donc, on parlait des Celtics et des Raptors. Ouf, premier match hier, c'était...
Je m'attendais à entendre un ouf de ta part.
Ouais. Elle m'a dit une affaire. Le ballon circulait. L'absence de Kyle Lowry, l'absence, on l'a pratiquement pas vu, sa blessure fait mal. Et aussi.
Ouais, mais Kyle Lowry, il a fini avec 17 points quand même, là.
Ouais, mais on l'a moins vu, hein.
C'est ouais, mais je pense. J'étais un peu déçu parce que Nick Nurse et Raptors ont quand même un bon banc. On n'a pas été beaucoup au banc au début. On a joué à 7. Donc, on a, Kyle Lowry était peut-être pas à 100%. Siakam a pris 3 fautes rapides. Mais sais-tu ce que j'ai trouvé au niveau de stratégie? C'est comme si tout le monde. Je donne tout le crédit à. Je ne sais pas si ça se dit en français crédit, là, mais je donne toute la gloire à Nick Nurse parce que les gens copient ce qu'il fait. Et j'ai trouvé que Boston a joué comme Toronto défensivement. Ils ont créé un mur, on appelle ça un mur, ce que Nick Nurse a développé, là, ça se faisait avant, mais c'est vraiment lui qui a vraiment mis la pression sur certains joueurs. Et puis, du côté de Boston, ben là, on joue sans Gordon Hayward, là, un des cinq partants, là. Mais ça a été tout un match, toute une leçon. Puis Marcus Smart a connu tout un match, Jaylen Brown, Kemba Walker et puis et Jason Tatum, là, fait que ça sera pas facile, mais comme l'entraîneur Brad Stevens l'a dit, ça c'est juste un match. Il s'attend à ce qu'il y ait des ajustements de Toronto, mais je m'attendais à voir Nick Nurse aller à son banc beaucoup plus rapidement, puis jouer peut-être à 9 au lieu de jouer à 7-8 au début.
Ok. Le ballon circulait rapidement aussi. Puis
absolument.
La ligne des lancers francs, pas la ligne des lancers francs, mais le pourcentage de lancers, nettement l'avantage des Celtics également. Raptors, est-ce que c'est une mauvaise game au bureau pour les Raptors ou les Celtics?
Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que, premièrement, ce qui manque à Toronto, c'est l'avantage du terrain. Il n'y a personne qui a un avantage du terrain à Orlando. Dans ces séries-là, il n'y a personne qui a un avantage du terrain. Là. C'est pas vrai. Là. On n'a pas de Jurassic Park. Et puis, je pense que Boston, si je ne me trompe pas, est la seule équipe à date. Toronto est 0-2 contre Boston et 11-0 contre le reste de la NBA dans la bubble. Si je me trompe. Boston, dans le sport, tu as un adversaire ou tu as un individu ou tu as une équipe que. Toi, tu es super bon, mais quand tu joues contre cette équipe-là, tu as toujours de la misère.
Ouais.
Et pour Toronto, je pense que ça a été Cleveland longtemps, mais je pense que c'est Boston. Ouais. Et Boston sont prêts, là. Et la différence entre Boston cette année et l'année passée, c'est que l'année passée, on se promenait avec Kyrie Irving, tout ça, puis là, Kemba Walker a amené de la stabilité, du leadership. C'est un joueur que tout le monde aime jouer avec. Et je pense que c'est une équipe meilleure depuis le départ de Kyrie Irving.
Milwaukee contre
Miami.
Miami. Comment tu vois ça?
Moi, je pense que ça pourrait se rendre minimum 6 matchs.
OK.
Minimum 6 matchs. Ça ne sera pas facile pour Milwaukee. Je pense que Milwaukee va gagner en 6. Parce que je pense que Miami, défensivement, c'est tout un club. Ils sont tough. Eric Spoelstra est reconnu pour sa défensive avec la même mentalité que Pat Riley. Donc, ça ne sera pas aussi facile que ça a été contre Orlando. Mais je pense que les Bucks vont se rendre en finale de l'Est. Mais je ne serais pas surpris que ça aille à 6 matchs.
OK. Donc, ça pourrait être une série. Et dans l'Ouest, parce que la première ronde n'est pas finie dans l'Ouest.
C'est tout un duel. Premièrement, les vedettes. Donovan Mitchell, Jamal Murray. Notre Canadien qui fait... c'est des matchs spectaculaires, les deux. Là.
Ouais.
Donovan Mitchell a connu 2 games de 50 points. Murray, c'est je ne sais pas si tu as vu son tir en foulée. Je dis ça professionnellement, francophone. Mais son lay-up en 360. C'est un highlight. C'est un des plus beaux lay-ups de la saison. Mais Murray, là, que je pense qu'il avait 10 points première demi. Tout d'un coup, il a fini avec 38 ou 40 points. Là. Murray connaît une série phénoménale. Murray a carrément mis l'équipe sur ses épaules pour revenir, parce qu'on s'en souvient, ils avaient gagné le premier match, mais Utah avait gagné les 2 suivants. Et là on se retrouve 3-3, match numéro 7, premier match numéro 7. Et puis de l'autre côté, ben, les Lakers ont fait ce qu'on s'attendait. Ça a fini 3-1, 4-1 la série.
Ouais, c'était walk in the park, donc dans cette série-là. Pascal, en terminant, 23% de baisse d'écoute pour la NBA.
Mais tu sais quoi, faudrait que tu me dises, y a-t-il une ligue qui a des super cotes d'écoute? Les matchs sont joués plus tôt. Vu qu'il n'y a pas de transport, c'est sûr qu'il y a
des matchs à 10h30 dans l'Ouest.
Moi,
là.
Personnellement, je pense que tu vas en venir, là, puis je suis pas sûr. Trump va dire ce qu'il veut, là. Le côté politique, mais on est dans une pandémie, là. Danny, il y a des gens qui ont d'autres choses à faire. Toi et moi, il n'y a pas juste la télé puis le basket. Puis, ça a changé la vie. Là, dans les 6 derniers mois, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur business. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, il y a un intérêt qui a baissé. Vu qu'on ne joue pas dans les arénas même, ça paraît pas, mais les codes d'écoute, je suis certain qu'ils sont affectés.
Sûr, c'est moins. Le baseball, j'ai de la misère avec certains sports. Le baseball, j'ai de la misère avec ça, moi. Okay. Tu sais, je veux dire, pas de spectateur, tu sais, c'est... Ouais. Hein?
Tu sais, moi, j'aimerais, tu sais, si tu me dis le baseball, augmentation, le hockey, augmentation, le basket a baissé, ben peut-être que je serais d'accord de dire, peut-être qu'il y a un côté politique que des gens ne veulent pas nécessairement écouter ou entendre parce qu'ils veulent que ce soit plus du sport. Mais moi, je pense que partout, il faudrait qu'on fasse nos recherches mieux, là. Mm. Ça, c'est mon opinion, mais je pense que partout, les codes d'écoute ont sûrement baissé. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au fait que ils sont dans la bubble, les matchs se jouent plus de bonne heure. Quand Los Angeles joue à 9h, il est 6h, il y a tout le monde qui finit de travailler.
10h30 des matchs qui a commencé à 1h30 et 10h du matin à Los
Angeles. Ouais. Ben, je pense que c'est 3h en arrière, je ne me trompe pas. Ouais, quand on joue à 9h. Quand
on joue à 9h. C'est à 1h de l'après-midi, on joue à 10h.
Ouais, c'est exactement. Fait que ouais. C'est, t'as tout à fait raison. Fait que c'est, y a beaucoup de gens qui ne vont pas écouter ces matchs-là. Mm-hmm. En tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qui est un facteur, mais personnellement, je suis pas surpris. Mm-hmm. Mm-hmm. Partout, Danny, tu sais comment que ça a été affecté. Ça l'affecte. Il y a des choses plus importantes que je pense.
OK. Pascal, on s'en reparle lundi prochain avec l'analyse des séries dans l'NBA.
Ça fait plaisir, Danny.
Pascal Jobin.